Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais qu'est-ce qu'il y avait des valeurs dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des poils autres promenades.
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour à tous et bienvenue sur Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps et le temps de vous parler, d'échanger autour de la culture et de la création artistique, mais pas que. Première émission de l'année 2018 et toute l'équipe, JC, Cécile et moi-même, vous souhaitons une très belle année. Voilà, restez curieux, soyez un peu audacieux en 2018. Voilà, c'est ce qu'on avait envie de vous faire passer en ce début d'année. Alors, équipe réduite aujourd'hui puisque JC et Cécile sont retenus par ailleurs. J'animerai l'émission avec Monsieur Pignon à la réalisation. Bonjour Monsieur Pignon.
Bonjour à vous Nathalie.
Eh ben, n'hésitez pas à intervenir.
Hein, je n'hésite pas.
Si la question vous démange pendant cette heure. Alors, j'ai intitulé notre émission d'aujourd'hui « La nuit aussi, la culture agit ». Alors, voilà, pourquoi ce titre? Parce qu'en effet, ce mois-ci, en janvier sur Évreux, vous pourrez vivre en famille des aventures culturelles assez insolites qui se dérouleront la nuit. Alors, j'aurai avec moi au sommaire de cette émission aujourd'hui Antoine Joly. Bonjour Antoine.
Bonjour Nathalie.
Antoine Joly, vous êtes directeur adjoint des bibliothèques d'Évreux. Et vous nous parlerez de la nuit de la lecture qui va se dérouler samedi 20 janvier à la médiathèque d'Évreux où, voilà, pendant une partie de la journée et de la nuit, il y aura un parcours, une aventure particulière proposée aux enfants, aux parents et tout à chacun. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous accueillerons cette fois-ci au téléphone Annabelle Sergent, qui est auteure et interprète de la trilogie Héroïque. Et là, c'est une autre aventure qui se passera également en partie la nuit, mais sur un week-end où les familles, les enfants et les parents pourront assister à trois spectacles et pour les plus chanceux, dormir une nuit au théâtre, veiller, écouter. Voilà, on vous en parlera ensemble. Mais de suite, comme de coutume, nous lançons les micros traînés quelque part, un son de vie.
Bah, on entend déjà des personnes.
Ouais.
Et des fois, ils peuvent passer des morceaux de musique. Maman, elle en fait. Maman, de la radio.
Bah, moi, c'est toi, mon papa.
Principatif, bien sûr. Bah, ils racontent des trucs. Hier, c'était un concert de rock. Bah, ça fait qu'on l'entend parler faire blablabla. Si vous voulez, je vous fais un petit morceau de rock.
Voilà, un petit morceau de rock. Nathalie, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, d'écouter là à l'instant?
Eh bien, voilà, c'était l'année dernière, le 23 décembre 2017, ici même dans les studios de Principe Actif, on avait ouvert le micro aux enfants. On a organisé le Noël de Principe Actif, où là, les enfants et les parents des animateurs, de l'équipe, ont pu se rassembler pour un petit goûter, mais aussi pour une émission. Voilà, vraiment, on parlait radio pour avec les enfants. Et là, on avait autour, il y avait 8 enfants présents, et chacun, à tour de rôle, eh bien, ont pris le micro. ont eu leur espace de parole, de liberté. Et nous entendions là plus particulièrement la question, enfin, JC les interrogeait sur le fait, mais c'est pourquoi, pour toi, c'est quoi la radio ? Et voilà, on avait un exemple d'enfant de bah, « ma maman fait de la radio et blablabla, qu'est-ce qu'on fait à la radio ?» Et bah, on parle beaucoup, mais pas que, il y a aussi de la musique.
C'est ça, visiblement, on écoute aussi un peu de rock.
Voilà,
en tout cas, dans certaines familles.
Dans certaines familles, c'est du rock et d'autres. En fait, c'était un moment assez chaleureux, convivial, touchant, parce que voilà, c'était toujours... Et qui nous a donné des idées aussi de peut-être plus... avoir envie d'ouvrir le micro aux enfants par ailleurs. On verra ça par la suite. Voilà, donc un moment de vie qui correspondait à la fin d'année et qui a été très plaisant pour tout le monde. Et je dois dire que les enfants ont bien pris la parole et que le micro, au départ, a pu être un peu, des fois, un petit frein pour certains, mais après, c'est totalement libéré. Voilà. Alors... comme de coutume, on enchaîne avec une première pause musicale. Et là, j'ai choisi pour vos oreilles la voix de Mélissa Lavaux avec le titre de son dernier album qui s'intitule « Nan von Ba ». Eh bien, nous sommes toujours sur Scène de vie, vite scène, en direct, et avec une émission qui a pour thème la nuit aussi, la culture agit. J'accueille Antoine Joly, qui est directeur adjoint des bibliothèques d'Évreux. Bonjour Antoine.
Bonjour Nathalie.
Merci d'être avec nous ce midi. Alors, voilà, nous allons parler de des bibliothèques d'Évreux et de ce qui s'y passe, et notamment la nuit de la lecture. Alors, les bibliothèques d'Évreux, c'est tout un réseau. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter l'ensemble du réseau des bibliothèques d'Évreux? Ça oui. Consiste en quoi?
C'est vrai que c'est important d'employer le terme réseau de lecture publique pour réseau de bibliothèques. Puisque c'est un maillage véritablement sur le territoire hébroïcien, avec la tête de réseau, si on continue dans cette métaphore, la tête de réseau avec la bibliothèque médiathèque Roland Plaisance, qui est le bâtiment principal dans l'hypercentre, et puis autour de cette grande bibliothèque médiathèque, trois autres bibliothèques de quartier. Des structures de proximité, de lecture publique de proximité, je dirais, donc sur le quartier de Navarre, sur le quartier de Nétreville et le quartier de la Madeleine. Et finalement, pour compléter, faire le lien entre ces bâtiments, ces bibliothèques, le Médiabus qui circule dans les quartiers de la ville et qui est là vraiment l'interface entre le public qui est éloigné, on parle d'éloigné en distance, mais aussi éloigné des livres, éloigné de la bibliothèque. Le Médiabus fait cette interface entre ce public et la bibliothèque, le bâtiment. Voilà. Un réseau aussi, donc là, qui est sur le territoire. On parle aussi de réseau en termes de collection, puisque c'est des collections qui sont, il y a des fondamentaux, mais il y a aussi des particularités selon les bibliothèques, selon la population à desservir. Et tout le monde peut emprunter avec une seule carte, d'où le réseau, une seule carte, ses documents. Et aussi ce qui facilite, puisque ce qui facilite, emprunter n'importe où et rendre n'importe où. Et puisqu'il y a également, je ne l'ai pas cité, mais un principe de navette tous les jours, qui circulent entre les bibliothèques pour rendre ou apporter des documents.
Bien oui, donc les bibliothèques en réseau, qui sont dynamiques, qui circulent, bon, voilà, les collections et les ouvrages circulent entre elles, mais c'est aussi avant tout un lieu de vie, enfin, l'objet, le premier temps, le livre, l'auteur, la lecture, voilà, c'est un lieu aussi où on peut prendre des livres, des disques, des films, peut-être des œuvres d'art oui. aussi. Voilà, vecteur, vous êtes vraiment l'outil vecteur de tout cela. Mais comment on rend vivant un tel lieu et une telle approche pour faciliter le rapport à la lecture et au livre? Comment vous, médiathèque, enfin, entre autres, il y a la médiathèque d'Évreux, mais le réseau des bibliothèques. Comment vous pensez, en fait, le rapport des actions que vous allez mettre en place avec le public pour faciliter l'approche de la lecture, des auteurs, de la découverte?
Oui,
en gros, c'est quoi votre esprit de médiation?
Vraiment, c'est une des missions de la lecture publique, promouvoir le livre et la lecture. Alors maintenant, par extension, puisqu'on parle de médiathèque, on parle de plusieurs supports, donc promouvoir les collections, hein, en général. Donc c'est une médiation, toute médiation que l'on peut mener in situ, dans les bibliothèques ou hors les murs, c'est vraiment pour capter ce public, mettre en avant nos collections, promouvoir la culture, développer l'esprit critique. Et vous parliez de centre de vie aussi, c'est dans la bibliothèque, quelle qu'elle soit, c'est développer finalement que la bibliothèque soit, par ses collections, par les actions qu'on peut mener dans des rencontres d'auteurs, que la bibliothèque devienne un lieu de débat, d'échange d'idées, et finalement la construction du savoir, et où toutes les cultures, et non pas une seule et même culture. Toutes les cultures, c'est ça la bibliothèque pour moi. C'est le croisement des cultures et que chacun s'en accapare. La médiation qu'on peut mener, c'est directement, bien évidemment, autour des collections, dans le conseil. Si vous rendez dans une bibliothèque face à cette masse de collections, le bibliothécaire est là pour vous conseiller. Il suffit de donner vos envies, votre humeur ou ce que vous avez lu, entendu. On peut vous renseigner et élargir aussi. Ça, c'est toute notre connaissance aussi et puis notre métier. Élargir la question pour voilà, développer l'esprit critique de chacun et chacune. Mais aussi, et là, on en a organisé des rencontres d'auteurs, des rencontres assez insolites aussi. Je pense par exemple au prochain festival que l'on va mener avec le festival Concordance, où confronter un danseur, une danseuse et un écrivain. Voilà. C'est vraiment par des approches insolites
artistiques
Que l'on arrive à capter, susciter la curiosité aussi. Ça, c'est important. Susciter la curiosité pour que le public vienne, dans un premier temps, investisse le lieu, investisse les collections et surtout revienne.
Oui, je note un élément important dans ce que vous venez de dire, Antoine, c'est le côté humain, contact humain aussi derrière un réseau de bibliothèques. C'est pas seulement des ouvrages, des livres, c'est des hommes et des femmes derrière qui sont bien souvent passionnés par leur métier, par la lecture, les ouvrages, le livre ou la bande dessinée ou un livre jeunesse, et qui sont vraiment ressources et conseillers vivants de toute cette création-là et de ce genre proposé au public. Voilà, c'est une bibliothèque où on peut avoir souvent l'idée d'un bâtiment avec des livres. Non, c'est un réseau aussi humain.
Oui, c'est, et ça, c'est vrai, cette image d'un temple du savoir réservé à une élite. En tout cas, c'est terminé et c'est vraiment la bibliothèque médiathèque Roland Plaisance et confirme cet élan dans les années 90 où la bibliothèque devait être au cœur de la ville, au cœur de la préoccupation des citoyens et une transparence. Et c'est vrai que j'aime bien dans des visites de la médiathèque parler de cette transparence. Quand on est dans la bibliothèque médiathèque d'Évreux, on a aussi une visibilité par l'architecture sur l'extérieur et inversement. Lorsqu'on est à l'extérieur de la médiathèque, on voit toute l'activité qu'il peut y avoir, on voit les collections.
Oui, et c'est un lieu que l'on peut visiter aussi. Oui. Du coup, avec un conseiller, avec une personne de la bibliothèque qui peut nous emmener et nous faire découvrir peut-être des aspects méconnus ou peut-être sur lesquels le public ne va pas forcément. Il y a vous organisez des visites de lieux.
On fait des visites. Oui. Dans le cadre de journées bien précises, je pense directement aux journées européennes du patrimoine, mais également par des expositions que l'on propose. Et là, il y a une visite, finalement, de l'exposition, mais aussi du lieu. L'usager découvre, le public découvre. Il faut savoir qu'il est vrai, la bibliothèque, c'est encore l'endroit où on peut rentrer sans décliner aucune identité, en étant inscrit ou non inscrit. Donc, il y a quotidiennement, dans les bibliothèques, et en particulier, là je parle pour Évreux, toute une part de la population qui rentre dans la bibliothèque pour consulter la presse, lire sur place, écouter sur place, rencontrer des gens, assister, puisque tout ce que l'on propose, il n'y a pas un caractère obligatoire pour être inscrit, pour assister à une rencontre d'auteur, voir un film, écouter un concert, assister à la présentation par les bibliothécaires de la rentrée littéraire. Là, vraiment, il y a une liberté, finalement, de s'accaparer de la bibliothèque.
Oui, un vrai espace de vie sur le territoire, dans la ville, la commune où on habite. Et je rebondissais aussi, parce que j'entendais, là, je lisais dernièrement, l'ouverture aussi des bibliothèques le dimanche. Oui. J'entendais notre ministre de la Culture débattre et proposer en fait cette possibilité d'ouvrir aussi ce lieu tous les jours. Enfin, voilà. Et du coup, comment se positionne le réseau des bibliothèques d'Évreux?
C'est vrai que nous, toutes les aides et encouragements que le ministère de la Culture a pu faire depuis un an, là, concrètement, puisque l'ouverture du dimanche, c'est de longue date, maintenant, toute nouvelle bibliothèque ne conçoit plus, en tout cas ne réfléchit plus, est-ce qu'il y a une ouverture le dimanche ? Et de plus en plus de bibliothèques ouvrent, et la médiathèque d'Évreux est ouverte le dimanche depuis le 1er octobre. Et c'est vraiment intéressant pour nous, puisqu'il y a un nouveau public. Hein. L'objectif, c'est vraiment, c'est pas ouvrir pour ouvrir, mais capter ce nouveau public qui est occupé en semaine, le samedi, par diverses activités. Et puis aussi, moi j'aimais bien aussi cette idée qui avait été lancée par une des ministres de la Culture, Aurélie Filippetti, c'est que les collectivités qui ouvrent le dimanche des commerces, il y ait une réflexion sur l'ouverture de structures comme les bibliothèques. Et voilà. Aujourd'hui, on en arrive. Il y a des aides qui sont octroyées pour l'ouverture du dimanche. Et c'est vrai, on est à mi-bilan hein, pour la médiathèque d'Évreux. C'est la première bibliothèque à ouvrir sur le département le dimanche. Et l'expérience est tout à fait positive, puisqu'on draine sur une amplitude, finalement 15h-18h, on draine entre 250 et 300 personnes par dimanche. Et ce qui est intéressant, cette ouverture du dimanche, c'est sortir du quotidien, de notre quotidien finalement, qui est quand même principalement le prêt et le retour, les transactions de documents. Mais c'est là où, ce que vous disiez tout à fait justement au début, où là on est vraiment dans la médiation complète. Puisque les gens sont là pour profiter de l'équipement, pour profiter aussi du personnel qui est là pour animer... Ça peut être juste une lecture d'un livre, juste un conseil. Alors bien sûr, c'est balisé tout ça jusqu'en juin par des... Il va y avoir des projections, des heures du compte. Mais il y a aussi notre travail de fond sur place qui est intéressant, et c'est ce que recherche vraiment le public.
Vous sentez qu'il y a un autre rapport au temps dans l'approche
Il n'y a pas qu'un passage. Voilà. Il n'y a pas qu'un passage. Ça, c'est
il se passe
vrai.
Autre chose.
Les gens, le temps, c'est qu'un ressenti. Hein. Le temps d'occupation sur place est plus important.
Ouais, c'est comme dans notre émission. On se laisse un peu le temps de parler et d'expliquer vraiment ce qui s'y passe et ce qui s'y vit. Écoutez, vous savez que Antoine, la coutume de notre émission est de proposer à notre invité une pause musicale, une ou plusieurs pauses musicales de son choix. Et là, je vous laisse présenter peut-être votre première proposition musicale.
Alors, ma première proposition, finalement, c'est lié directement à ce que d'hier soir, ce que j'ai lu hier soir. Donc, et puis quand vous m'avez demandé ça, j'ai dit ah bien oui, je vais pas chercher plus loin. C'est le Tourbillon chanté par Jeanne Moreau à partir du film de Julien Jim de François Truffaut. Donc, c'est des paroles de Serge Rezvani. Et voilà, j'ai lu hier des choses sur Jeanne Moreau, qui est décédée au mois de juillet. C'est une personne, en tout cas par la personne, l'actrice, la comédienne, que j'apprécie beaucoup. Et puis ça donne la pêche, cette chanson.
Eh bien, nous l'écoutons de suite.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail.
Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Voilà la magnifique voix de Jeanne Moreau avec le tourbillon. Nous sommes toujours avec Antoine Joly, directeur adjoint des bibliothèques d'Évreux, qui est là pour nous parler évidemment de la vie des bibliothèques d'Évreux, mais la maintenant, plus particulièrement, autour d'un événement assez insolite qui va se dérouler dans la journée et la nuit du samedi 20 janvier et qui s'intitule « La nuit de la lecture ». Alors, voilà, une nuit. Alors, je vois, j'ai le programme, entre autres, sous les yeux. Et je vois qu'on va y parler contes, littérature, et notamment avec une thématique bien particulière, la littérature russe. Alors, Antoine, cette nuit de la lecture, je crois que c'est la deuxième édition. Mmh. Et d'où ça vient, cette idée de nuit de la lecture, et pourquoi cet axe de la littérature russe aujourd'hui?
Alors, la nuit de la lecture est vraiment une initiative qui a été lancée par le ministère de la Culture et de la Communication il y a 2 ans, donc d'où la deuxième édition. Mmh. L'idée, c'était pour le ministère de promouvoir les acteurs du livre. Donc, c'est vrai qu'il y a la nuit de la lecture, des bibliothèques et des libraires. Voilà.
D'accord.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que le premier communiqué qu'on avait eu, c'était Nuit des bibliothèques. Ils ont élargi en Nuit de la lecture. Mmh. C'est vraiment
oui.
bien.
Ça
voilà.
veut dire que
on élargit.
Potentiellement, des libraires
on
peuvent
décloisonne.
Être ouverts.
On peut décloisonner. Donc, porté par le ministère de la Culture, l'idée, bien entendu, c'est de faire connaître d'une manière insolite un équipement. Mais aussi, et c'est là où on est complètement en corrélation avec ce que j'ai dit, ce dont on a parlé en première partie, c'est la promotion des collections. Découvrir, je cite, la richesse des collections des bibliothèques de France. Et nous, on a, les bibliothécaires d'Évreux, on a bien sûr suivi les recommandations du ministère et... on a imaginé cette nuit qui commence finalement quand même un peu plus tôt à 17h pour les enfants. On a imaginé cette nuit autour de nos collections et puis aussi pour lancer une saison russe sur la littérature russe. Depuis 3 ans, les bibliothèques d'Évreux se rapprochent, s'associent au Salon du Livre de Paris au niveau du pays mis à l'honneur pour ce salon. Il y a 2 ans, il y avait eu la Corée du Sud. On avait reçu des auteurs de Coréens issus de la délégation officielle du salon. L'année dernière, c'était le Maroc. Donc cette année, Paris Salon, le Salon du Livre de Paris, a mis à l'honneur la Russie. Donc voilà, l'idée de départ, c'était ça. Et autour de ça, on a glosé et... Et finalement, enrichit cette rencontre qui va débuter au mois de mars, mais on l'a élargie et on l'a mise à partir du mois de janvier de cet événement Nuit de la lecture. Donc, entre janvier et avril, les bibliothèques d'Évreux vont finalement être vont porter toute leur médiation sur, et leurs actions sur la littérature russe. Exposition, rencontre d'auteurs, cabaret poétique, des lectures régulières, des projections. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas, et ça c'est important, parce que c'est un peu une première pour nous, une résidence. On a demandé à la conteuse Muriel Bloch, qui ouvre cette nuit de la lecture, Muriel Bloch, d'être la conteuse en résidence entre, à Évreux, entre janvier et avril, et la commissaire de scientifique de cette programmation de littérature russe, donc par des contes, par des conférences pour les professionnels, la littérature russe pour enfants, par des interventions pour le tout public. Voilà, tout le programme est dans le dans le nouveau
une nouvelle plaquette
qui s'appelle transverbal.
Voilà.
Ça c'est important, transverbal, au-delà du mot, au-delà du mot et à partir du mot, on en revient encore à notre médiation. Quel fil on peut tirer? Quelle piste transverbale, au pluriel.
Alors voilà, tout le programme, et on va y aller un peu plus en détail dans cette nuit de la lecture, et notamment on va s'attacher à la journée du 20 janvier. Alors, quelle va être l'atmosphère? Comment vous allez peut-être déplacer des choses à la médiathèque? Voilà, comment la nuit va se vivre? Et pour qui? Voilà, j'imagine, on est une famille, on a des enfants, on est adultes, mais pas que. Qu'est-ce que je peux y faire? Mais si je suis intriguée en disant, bah tiens, je suis insomniaque, je vais à la médiathèque pendant ce moment-là. Quel esprit vous avez voulu faire sentir au public qui va rentrer à la médiathèque d'Évreux, dans cette médiathèque?
C'était proposer des moments forts, comme les contes, les deux séances de contes de Muriel Bloch. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les enfants se couchent un peu tard, ils se coucheront peut-être un peu plus tard cette nuit-là,
c'est
mais
c'est
permis.
En même temps.
À 18h, des contes pour enfants par Muriel Bloch, avec la figure emblématique Baba Yaga, cette sorcière, à la fois gentille, méchante, ça dépendra des contes, et c'est ce que Muriel Bloch nous fera découvrir. Et puis, aussi, pour tout le monde en profite, ça c'est vrai, c'est la deuxième fois qu'on fait ça, c'est à 20h, il y a à nouveau des contes, cette fois-ci pour adultes par Muriel Bloch, et là, pendant que les parents sont au rez-de-chaussée de la médiathèque, les bibliothécaires jeunesse se proposent de s'occuper des enfants, des parents qui seront au rez-de-chaussée. L'idée, c'est vraiment, pendant cette nuit, investir tous les étages de la médiathèque, eau et gaz à chaque étage. On l'a dit, livre, écoute, conseil à chaque étage. Et c'est ça aussi, je pense que tout à chacun y retrouvera. Et là, chaque bibliothécaire vont être, selon leur affinité, selon leur envie. Là, on a un petit peu, on est sorti un peu de notre carcan professionnel, où là, on s'est donné une liberté, proposer une mise en avant des collections, des déambulations nocturnes pour les enfants avec des masques.
Alors, c'est-à-dire que on sera
les enfants auront des...
Oui, c'est ça. On est dans la...
Sous forme de jeu. Alors, toujours dans les collections. Puisque
dans les rayons de la médiathèque.
Très, très concrètement, l'objectif de cette nuit, c'est susciter l'envie d'emprunter. Et c'est ça, c'est bien sûr assister au conte, à la projection, goûter à la soupe des bibliothécaires, mais aussi d'emprunter. C'est ce qui est important pour cette nuit-là. Les collections. Donc, à chaque étage, par exemple, dans les romans, ça va être assez drôle, je pense, vu les collègues, connaissant les collègues, c'est des déambulations, et puis piocher au hasard, enfin, quand même un hasard assez choisi, des livres, et faire partager les coups de cœur, emprunter ce policier, parce que emprunter tel livre, un livre canadien sur les Indiens, je ne que sais-je, parce que, voilà. Au premier étage, des écoutes musicales, et là, on s'est donné vraiment une toute liberté, puisque on cible tout le public. Il y en aura pour tous les goûts.
Et place donc au conte pour enfants, pour adultes, mais aussi une projection de films, de cinéma pour terminer cette nuit. C'est-à-dire que pour amorcer la nuit, l'endormissement. On peut prolonger avec un film pour vous proposer.
La deuxième partie, oui, ce sera Les Chevaux de Feu de Sergueï Paradjanov. Donc là, on reste encore dans la thématique russe. Et puis aussi dans cette thématique littéraire, puisque c'est d'après une nouvelle russe, Les Ombres des Ancêtres Oubliés. Et ça nous mènera jusqu'à minuit pour déguster la fameuse soupe.
Et vous, ouais, on termine par une soupe.
Vous nous parliez notamment, quand Antoine, vous nous parliez des contes russes et notamment de la figure de Baba Yaga, aussi bien dans les contes et peut-être plus généralement en littérature russe. Est-ce qu'il y a on parlait là de Baba Yaga, de certaines figures, est-ce qu'il y a des thématiques particulières abordées, peut-être pas uniquement par les auteurs russes, mais... voilà, des thématiques qui reviennent un peu régulièrement, comme ça, dans ce qu'on peut lire des auteurs qui nous viennent de Russie.
Alors, c'est vrai que quand je parle littérature russe, avec Muriel Bloch, c'était vraiment ça aussi l'axe qu'on s'est fixé, c'est sur l'immensité du territoire. Donc, ce qui va être intéressant, je reviendrai après à votre question, c'est comment ce conte-là de Sibérie sera interprété, retranscrit pour l'Arménie. Voilà. Tous ces contes qui sont vernaculaires font cette diversité, l'immensité de ce territoire. On parle de langue slave. Et ça, c'est cher à Muriel Bloch de vraiment capter tous ces contes. Et puis aussi le croisement avec les autres arts, puisqu'on en retrouve dans les ballets. On en retrouve dans l'art. Vous verrez l'exposition à partir du mois de février sur la littérature pour enfants russes. Il y a des artistes prestigieux qui ont participé à illustrer des contes russes. Kandinsky, le fameux Bilibine aussi, où ces illustrations sont merveilleuses. Pour revenir sur les thématiques, ce qui est important, quand j'ai travaillé dessus sur ce parcours de conte, bien sûr les animaux reviennent et le loup par exemple n'est pas forcément le plus méchant contrairement à cet animal dans les contes européens. La figure de Baba Yaga, cette sorcière qui peut être aussi incarnée, je l'ai découvert aussi par une cabane qui aussi entre la méchanceté et la bienveillance aussi selon les contes. Donc et puis la forêt et puis bien sûr les princes et les princesses et puis cette richesse des contes populaires mais aussi où l'aristocratie peut être représentée et l'immensité encore du territoire.
Bien, et oui, préciser que Muriel Bloch lira notamment les contes de Louda.
Oui,
qui est, Louda, oui. Peut-être que Louda pouvait nous le présenter ce registre et ses contes.
Alors, Louda, c'est une femme qui, finalement, quand je parle de l'immensité du territoire et finalement, le rayonnement de la littérature, Louda en est finalement l'exemple même. C'est une femme qui est russe, qui est née en Russie au début du siècle et qui est arrivée, comme beaucoup de gens, en France avec immigrés et puis qui a connu toute l'effervescence culturelle de Paris des années 30, qui a côtoyé les plus grands artistes à Montparnasse, à la Paul, à Montmartre. Et Louda, donc c'était Muriel Bloch l'a rencontrée à la fin de sa vie. Louda est morte dans les années 90 et Muriel l'a rencontrée dans les années 80 et ça a été vraiment son mentor. C'est ce qu'elle m'a dit. Et Louda a retranscrit, traduit toute une littérature de contes en langue slave et c'était vraiment un des premiers répertoires pour Muriel Bloch. Mais pas que la langue, que des contes russes. Si vous lisez dans la collection Les Contes de Louda, dans la collection Giboulée de Gallimard, vous verrez aussi que Louda a traduit des contes vietnamiens, des contes marocains. Bon, essentiellement russes. Et c'est par elle aussi, c'est une des personnes qui a permis de faire connaître en Europe les contes russes. Luda, L-U-D-A. Et il en sera beaucoup question dans l'exposition à la médiathèque.
Eh bien voilà, un riche programme et une nuit insolite à laquelle nous vous invitons à travers la présentation dans cette émission. L'heure tourne déjà. Et oui, ça passe vite. Vous avez choisi, Antoine, un deuxième choix musical qui est, pour le coup, du jazz avec Miles Davis. Alors pourquoi ce choix ?
C'est toujours finalement, j'ai pas été beaucoup. Enfin, si j'étais très influencé par ma lecture d'hier, toujours
la
avec Jeanne Moreau.
La nuit porte toujours conseil.
voilà, toujours avec. C'est la bande originale du film L'ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Et voilà, c'est avec la figure avec Jeanne Moreau. Et ça se passe la nuit. Finalement, là, on est vraiment dans la thématique de l'émission. Et Miles Davis. Finalement, c'était pas du tout prévu. Louis Malle adorait. La particularité, c'est que cette musique formidable s'est faite en une nuit. Juste, Miles Davis, je ne sais plus d'où il est arrivé. Il faisait un passage à Paris pour repartir aux États-Unis. La production, Louis Malle, ont pu l'arrêter juste une nuit et il a composé cette bande originale formidable. Il faut imaginer Jeanne Moreau courir dans Paris la nuit, il pleut, luminosité fantastique. D'ailleurs, on passera à la médiathèque en février. Ascenseur pour l'échafaud.
Ascenseur pour l'échafaud, composé en une nuit par Miles Davis. Et c'est le choix d'Antoine Joly, le dernier choix musical d'Antoine Joly, qui nous présentait la nuit de la lecture. Alors, nous passons au deuxième sujet qui reste dans la nuit, et, mais pas que, mais aussi dans le conte et dans le théâtre. Puisque le week-end du 27 et 28 janvier à Évreux, au Tangram et plus particulièrement au Cadran, se déroulera la trilogie héroïque, c'est-à-dire un week-end non-stop de contes par la compagnie Loba, et notamment Annabelle Sergent, que nous allons avoir prochainement au téléphone, pour une traversée dans les contes, les grands contes emblématiques européens, de Perrault ou de Grimm, puisqu'elle revisitera Blanche-Neige et les Sept Nains, elle revisitera Le Petit Poucet et le joueur de flûte de Hamelin. Donc, pendant ce week-end particulier, où là, il y a une immersion totale dans le théâtre, où les familles, les enfants seront accueillis, pourront voir les contes, les spectacles, et pourront aussi, pour certains, dormir pendant la nuit, c'est-à-dire assister au dernier spectacle, manger sur place, veiller, lire, rencontrer Annabelle et se réveiller le lendemain matin au théâtre et voir un autre spectacle au lever après le petit-déj et rencontrer et s'immerger totalement dans la vie d'un théâtre. Et je crois que nous avons Annabelle au téléphone. Bonjour Annabelle, vous m'entendez bien ? Allô ?
Oui, bonjour.
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 Alors, je vous présente Annabelle. Vous êtes auteur et interprète. Vous avez pensé et conçu avec votre équipe, la compagnie Loba, la trilogie héroïque où, seul en scène, vous revisitez les grands contes et récits de notre enfance. Hein. Alors Blanche-Neige devient Botte de Prince et Bigoudi, Le Petit Poucet vous inspire Pépé les Petits Cailloux et le récit du joueur de flûte de Hamelin devient Le Roi des Rats. Alors j'avais une première question, c'est comment à vous poser avant qu'on parle vraiment concrètement de la trilogie. C'est comment entre ces récits imaginaires et puis le plateau d'un théâtre, vous avez envie de raconter ces histoires aux enfants d'aujourd'hui. Comment ça se passe, vous, dans cette envie-là et dans le plateau ?
Alors, ce que je souhaitais, en fait, c'est justement re-questionner ça. Comment on peut raconter des histoires qui font partie, en fait, de notre patrimoine imaginaire collectif ? Comment on les raconte aux enfants d'aujourd'hui ? Et voilà, je suis partie, en fait, je suis partie sur une esthétique assez contemporaine, dans le sens où elle est assez épurée, puisque c'est des seuls en scène plateaux nus ou à l'intérieur desquels je joue tous les personnages. Donc c'est vrai que tous les spectacles sont assez inspirés à la fois d'imaginaire, on va dire, assez nocturne que véhiculent les contes. Donc au plateau, on a beaucoup de jeux d'ombre et de lumière. Et puis d'imaginaire aussi de dessins animés, parce que forcément, en tout cas d'imaginaire enfantin. Donc on a un peu un effet cinéma au plateau, à la fois avec la scénographie lumière et la composition sonore et le texte. Donc en fait, le public, quand tu viens voir ces spectacles, comme je suis seule en scène et que je joue tous les personnages et que ça va assez vite, c'est assez tonique en fait, hein, la trilogie est assez tonique. Oui. On a cette sensation à la fois d'être au cinéma et au théâtre. Voilà, on a cette sensation de voir ce qui n'existe que dans les mots et qui est aidé par l'imaginaire de la scène en fait. Voilà.
Et avec aussi une reconstruction des personnages. Enfin, tout est... Voilà, on n'est pas dans une narration habituelle. C'est vraiment inspiré.
Pas du tout.
Voilà, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, d'imaginer, et qui résonne aujourd'hui. Enfin, je vois...
clairement. Clairement, en fait, j'ai réinterrogé les récits pour essayer de faire ressortir le fond, en fait, des récits. Donc dans Blanche-Neige, il y a vraiment la question de la jalousie, de l'image, etc. Donc ça, c'est assez Pepsi, on va dire, au sens de voilà, on parle vraiment de l'image aussi, de ça veut dire quoi être une jeune fille aujourd'hui, etc. Enfin, voilà, cette image-là. Donc, Pépé, les petits cailloux, je me suis toujours dit que c'était suffisamment terrifiant pour être un thriller. Donc, j'ai fait de la forêt le personnage principal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans la forêt du petit poussé, on ne peut pas en sortir. Enfin, il y a un moyen pour en sortir, mais je ne vous le dirai pas.
Bah non,
pas
venir voir les petits cailloux.
Mais c'est conçu un peu comme, en fait, un thriller pour enfants, quoi. Mais avec un côté assez drôle, puisque dans Pépé, les petits cailloux parlent. Et ils parlent en italien comme dans Le Parrain, en fait, voilà, comme dans Le Parrain. Ils parlent un peu comme ça, et voilà, ils assistent à l'histoire, etc. Il y a un côté complètement déjanté. Et puis, dans Le Roi des Rats, on est sur un imaginaire plutôt londonien, en fait, 19e siècle londonien, même si la ville est très contemporaine, mais on se trimballe, en fait, avec ça, la brume, enfin voilà, la ville, la brume, c'est très urbain, c'est un peu trip-hop comme imaginaire aussi musical, voilà. Donc, ils sont revisités à chaque fois, puisque je fais, dans la trilogie, les enfants, je fais de l'enfance le héros de l'histoire. C'est-à-dire que, pour moi, il importe de raconter que l'enfance a les clés pour sortir des situations dans lesquelles elle a plongé et qu'elle n'a pas choisi.
Mmh. Oui,
voilà, c'est ça qui lie la totalité des récits, c'est cette idée que... Eh ben, un enfant plongé dans une société ou un monde d'adultes, eh ben, il trouve à l'intérieur de lui et dans la bande d'enfants qu'il a avec lui les clés assez facétieuses pour ouvrir un champ qui est le champ de l'enfance et le champ des possibles. Voilà.
Mmh. Bah, écoutez, c'est une vraie... Et puis, c'est une vraie chance, du coup, là, à Évreux, de pouvoir voir les trois à la suite, c'est-à-dire d'être vraiment dans ce condensé, mais aussi dans ce parcours de d'enfance, mais aussi de votre création, voilà, de votre univers, et avec, parce que c'est quand même votre compagnie, la compagnie Loba, qui proposait en partenariat, et parce que aussi le Tangram l'a voulu, le lieu qui vous accueille, de proposer et de créer un vrai parcours aussi pour les enfants et les parents. D'immersion et de chemin à travers ces contes et cette création.
Et des spectacles.
Et des spectacles.
En fait, au tout début, le souhait en fait, de constituer cette trilogie, c'est que moi, en tant qu'adulte, j'aime beaucoup aller voir des spectacles qui sont longs. J'aime bien cette idée qu'à un moment donné, le temps quotidien, c'est pas lui qui a la prise. J'ai envie de m'offrir des fois des espaces où je m'évade en fait et quand les spectacles sont très bons, qu'un spectacle dure 4 heures pour un adulte, quand on ressort de là, on s'est modifié. Alors pour le jeune public, ça me paraît très difficile de modifier la durée elle-même d'un spectacle, mais ce que je voulais modifier, c'était le rapport qu'ils ont. C'est-à-dire souvent c'est une heure, hein, le calibrage entre 50 minutes et une heure, ne nous mentons pas pour ces tranches d'âge-là. Et l'idée là, en fait, c'était d'offrir, en fait, au public, qu'il soit jeune ou moins jeune, parce que vraiment, la trilogie, elle est vraiment pour tous. J'écris pas spécifiquement pour jeune public. J'écris de l'endroit de l'enfance. C'est très différent, en fait. Et du coup, ce que j'avais envie, c'était que le public puisse voyager qu'il y ait plus de temps de spectacle et de nuit et de rêve que de temps quotidien. Donc c'est pour ça qu'on commence à 17h avec Bottes de Pince et Bigoudi, ça dure une heure. Ensuite les gens dînent, déjeunent, cassent un petit casse-croûte. On reprend à 20h, ça finit à 21h15. La nuit dessus qui va faire son chemin de rêve. Et puis le lendemain matin, on rentre dans la salle. On s'est échauffé en tant que spectateur pour venir voir un spectacle comme nous on s'échauffe au plateau en tant qu'acteur. Et puis, quand ça recommence à 10h, en fait, quand les gens ressortent du spectacle, il est 11h30, midi, quoi, en gros, on ressort du théâtre. Donc, pour ceux qui vont dormir au Tangram, ils vont rentrer pour 17h et ils vont ressortir le lendemain à midi du théâtre. Et moi, j'aime cette idée qu'à un moment, on s'extrait de nos vies quotidiennes pour pouvoir vivre ça collectivement ensemble. Je pense que le théâtre, il nous permet encore de vivre ces mouvements-là collectifs. Enfin, je l'espère, en tout cas. Et j'ai déjà fait la trilogie, le public ne dormait pas sur les lieux, mais j'ai déjà fait deux fois ce tour de force de trilogie, de jouer les trois spectacles en si peu de temps. Et finalement, c'est pour moi, c'est 9 ans d'écriture. C'est 3 spectacles, 9 ans. Et vous verrez à l'intérieur, il y a des choses, des personnages, par exemple, qui se déplient, qui reviennent. Il y a aussi l'endroit de l'échappée belle pour les enfants. On voit se dessiner un chemin que moi-même, qui se révèle à moi-même quand je le joue, et c'est grâce au public que je l'entends. Et le public lui-même se construit tout un monde à travers ces 3 spectacles. C'est comme s'il avait les clés de la tête de mon univers sur 10 ans. Voilà. Et ça vient vraiment nourrir plein d'endroits d'imaginaire. Ça fait qu'on a un peu décollé du sol en sortant. Moi, j'aime bien cette idée qu'on se décolle un peu du sol, là.
C'est ce que, en tout cas, vous avez envie, le Tangram a envie de faire partager, vivre, sentir, vraiment traverser de l'intérieur pour le public qui suivra cette aventure. Puis elle sera accompagnée.
Quand on va au théâtre, on a envie de vivre des choses. Et donc, on vit des choses là, à la fois en tant que. Nous, on a envie que. Moi, j'ai envie que le spectateur. Ils puissent vivre des émotions. Alors, j'oriente un peu, mais après tout, c'est les siennes, c'est pas celles que je lui impose. Mais l'idée, c'est aussi de vivre à l'intérieur même du théâtre, en fait, dans ce lieu-là, un vrai temps ensemble, autour de, des mots, des images, de ce qu'on a ressenti, de ce qui nous a fait rire, ce qui nous a effrayé, ce dont on a eu peur, ou ce qui nous a amusé, ou ce avec quoi on est d'accord ou pas d'accord. J'ai vraiment envie qu'il y ait ce vrai moment-là de partage ensemble. Et Christian Mousseau-Fernandez aussi, évidemment, puisque cette chose-là, c'est avec lui qu'on l'a imaginé depuis plusieurs années, cette chose de
parcours et d'immersion totale.
Ouais, de parcours.
Merci beaucoup, Annabelle Sergent, pour nous avoir présenté. Voilà, et on va écouter, j'y serai par ailleurs. À cette aventure théâtrale, conte et puis intime aussi, qui se déroule le samedi 27 et dimanche 28 à Évreux au Cadran. Merci beaucoup, à très vite.
Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.
Et voilà, et l'émission touche à sa fin. Nous sommes déjà enfin. On va faire un agenda extrêmement rapide puisqu'il nous reste 2 minutes. Mais écoutez, mois de janvier, place à la nuit, à la culture qui agit la nuit, avec la nuit de la lecture samedi 20, avec la trilogie héroïque le samedi 27 et le dimanche 28, mais aussi avec la nuit des conservatoires et musicales qui aura lieu le vendredi 26 janvier également sur Évreux. En fait, en janvier, on dort pas. On lit, on va au théâtre, on écoute de la musique et on travaille intérieurement la nuit. Voilà, moi je voulais pointer le concert de Chassol également. Qui aura lieu au Cube la semaine prochaine, le 18 janvier. Allez-y, c'est une expérience là aussi sensorielle, musicale et visuelle sur cet compositeur, auteur, musicien qui est assez exceptionnel. Allez-y, c'est très bien. Et puis un spectacle de danse, We Love Arabs, le 23 janvier à Louviers, au Théâtre du Grand Forum, où là, c'est une vision du conflit israélo-palestinien, mais vu à travers les artistes danseurs, c'est aussi extrêmement intéressant à avoir. Antoine, vous vouliez avoir un rendez-vous peut-être à nous proposer à la médiathèque?
Oui, très rapidement, jeudi 25, Carole Martinez, Pascal Houbin, la chorégraphe, et Rosita Boisseau, la journaliste, donc une table ronde autour du prochain festival Concordance.
Eh bien voilà. Et la coutume veut aussi que l'émission se termine avec un choix de film. Eh bien, j'ai choisi le film de Frédéric Wiesmann, qui est sorti l'année dernière, en 2017, en fin d'année. Il s'agit de Ex Libris, New York Library, où là, on est dans ce film documentaire, on est immergé justement dans la bibliothèque de New York, qui est une des 3 grandes grande bibliothèque au monde, et on vit l'intérieur, c'est ce lieu de vie qui est ouvert à tous, dans lequel chacun peut avoir son expérience, son aventure. Voilà, et bien je vous le conseille, il sera programmé à Évreux le 25, à partir du 25 janvier au Ciné-Pâté. Et voilà, on entend la bande-annonce, allez-y si vous voulez continuer à découvrir aussi les lieux que sont les bibliothèques à travers le monde.
The libraries are the pillars of our democracy. Maya Angelou called them rainbows in the clouds.
Good morning. Thanks for calling Ask YPL. How can I help?
No, I don't speak Spanish. You need someone who speaks Spanish?
A unicorn is actually an imaginary animal.
And I tell a lot of people, don't depend on anyone. Do it yourself, just believe in yourself and keep working at it. I couldn't afford to go to film school. I learned from the library.
Homeless patrons. I am not an expert at this topic, but I've been a New Yorker my whole life, and one of the things that you notice is, you know, the way in which we who are not homeless keep our distance from the homeless. And in the libraries is a place where we don't keep our distance.
Since we are toward the tail of the NYPL hotspot program, lending periods may be shorter than a year. You're going to get 6 gigabytes per month at 4G speed.